Allez savoir pourquoi, un break à quatre portières à la place de la buique de porte qui faisait la joie et l'orgueil de mon père. Je disais à qui voulait l'entendre que, quand je serai grande, je serai pédiatre. Pourquoi ce choix? Parce que j'aimais bien les enfants et que j'avais rapidement compris que c'était une réponse qui plaisait aux adultes. Oh, médecin! Quelle bonne idée! En ce temps-là, j'avais des nattes. Je menais mon grand frère à la baguette et je me débrouillais toujours pour avoir de bonnes notes en classe. J'étais ambitieuse, sans vraiment savoir à quoi j'aspirais. Je crois d'ailleurs que c'est une des questions les plus bêtes qu'un adulte puisse poser à un enfant. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand? Comme si on cessait un jour de grandir. Comme si, à un moment donné, on devenait définitivement quelqu'un et qu'alors tout devait s'arrêter. À ce jour, j'ai été avocate. J'ai été vice-présidente d'un hôpital et directrice d'une association qui aide les jeunes à s'engager dans des carrières sérieuses. J'ai été une jeune fille noire d'origine modeste, étudiante dans une université prestigieuse, fréquentée majoritairement par des Blancs. J'ai été la seule femme, la seule afro-américaine, dans beaucoup de contextes différents. J'ai été une épouse, une jeune maman stressée, une fille affligée. Et jusqu'à une date récente, j'ai été première dame des États-Unis d'Amérique. Un métier qui n'en est pas un officiellement, mais qui m'a offert une tribune dont je n'aurais jamais pu rêver. Ce métier m'a mise au défi et m'a appris l'humilité, m'a exaltée et abattue, parfois tout cela en même temps. Je commence à peine à assimiler ce qui s'est passé au cours de ces dernières années, entre le moment, en 2006, où mon mari a évoqué pour la première fois l'idée de se présenter à la présidence, et le froid matin d'hiver où je suis montée à bord d'une limousine avec Melania Trump pour l'accompagner à l'investiture de son mari. Quel voyage! Quand on est première dame, l'Amérique se révèle à vous dans tous ses extrêmes. J'ai participé à des collectes de fonds dans des demeures particulières qui ressemblaient à des musées, dans des maisons où les baignoires étaient faites de pierres précieuses. Je suis allée voir des familles qui avaient tout perdu à cause de l'ouragan Katrina et qui pleuraient de reconnaissance simplement parce qu'elles avaient un réfrigérateur et une cuisinière en état de marche. J'ai fait la connaissance de gens superficiels et hypocrites, mais aussi de personnes, des enseignants, des femmes de militaires et tant d'autres qui m'ont ébloui par la profondeur et la solidité de leur détermination. Et j'ai rencontré des enfants, de très nombreux enfants dans le monde entier, qui m'ont fait mourir de rire, m'ont empli d'espoir et ont réussi, pour mon bonheur, à oublier mon titre dès que nous avons commencé à retourner ensemble la terre d'un jardin. Depuis mes débuts réticents dans la vie publique, j'ai été considérée comme la femme la plus puissante du monde et dénigrée comme une femme noire en colère. J'ai eu envie de demander à mes détracteurs à quel élément de cette formule ils accordaient le plus de poids. En colère, noire ou femme? Je me suis forcée à sourire quand on m'a photographiée avec des gens qui traitaient mon mari de tous les noms à la télévision, mais n'en tenaient pas moins à avoir un souvenir à poser sur leur cheminée. On m'a rapporté qu'il y avait sur Internet des commentaires nauséabonds me concernant. Certains allant même jusqu'à douter que je sois bien une femme et non un homme. Un membre du Congrès américain s'est moqué de mes fesses. J'ai été en colère. Mais le plus souvent, j'ai préféré en rire. Il y a encore tant de choses que j'ignore au sujet de l'Amérique, de la vie et de ce que l'avenir nous réserve. Mais je sais qui je suis. Mon père, Fraser, m'a appris à travailler dur, à rire souvent et à tenir parole. Ma mère, Marianne, a pensé par moi-même et à faire entendre ma voix. Tous les deux ensemble, dans notre petit appartement du quartier du South Side de Chicago, ils m'ont aidé à saisir ce qui faisait la valeur de notre histoire, de mon histoire et plus largement de l'histoire de notre pays. Même quand elle est loin d'être belle et parfaite. Même quand la réalité se rappelle à vous plus que vous ne l'auriez souhaité. Votre histoire vous appartient. Et elle vous appartiendra toujours. À vous de vous en emparer. J'ai passé 8 ans à la Maison Blanche, où il y a plus d'escaliers que je n'en saurais compter, sans parler des ascenseurs, du bowling et du fleuriste. J'ai dormi